Aujourd'hui, la masterclass de Johann Sfar avec Mathilde Wagmann.
Nous ouvrons donc la masterclass de Johann Sfar ici à la Bibliothèque nationale de France, partenaire de cette collection d'entretien, tout comme le Centre national du livre. Bonsoir Johann Sfar.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir. Le principe de cette collection est le suivant, savoir comment un artiste construit une œuvre, comment se déroule le processus de sa fabrication. Avant de véritablement commencer, je vais me permettre de rappeler quelques éléments de votre parcours, mais quelques-uns seulement, je le dis tout de suite. C'est d'abord, bien sûr, comme auteur de bande dessinée que vous vous êtes fait connaître depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Vous avez bâti une œuvre à la fois protéiforme et prolifique, puisque vous êtes l'auteur de plus d'une centaine d'albums, comme dessinateur, comme scénariste, ou les deux, bien souvent. Vous êtes l'auteur de la série du Chat du Rabbin, bien sûr, dont le 7e tome, La Tour de Babel-Oued, vient de paraître au moment où nous enregistrons cet entretien aujourd'hui. Vous êtes l'auteur des 5 volumes de Kletzmer, votre réponse ashkénaze au Chat du Rabbin, je cite votre expression, de la série du Petit Vampire, qui a rapidement été suivie par Le Grand. Tout un pan de votre travail est également constitué par des carnets, parus d'abord chez l'association, puis chez Delcourt, et dont le dernier opus, joliment intitulé « Si j'étais une femme, je m'épouserais », est paru chez Marabout l'an dernier. Du côté des aventures collectives, rappelons enfin que vous faites partie de la loufoque et tentaculaire entreprise que constitue Donjon, une série que vous avez initiée avec Lewis Trondheim, votre camarade et ami, et dont vous avez signé plus de 30 titres. Depuis quelques années, vous êtes aussi réalisateur de films. Gainsbourg, Vie héroïque, votre premier long-métrage, fut en 2010 un grand succès en salle et vous avez valu 3 Césars, dont celui de meilleur premier film. L'année suivante, votre adaptation en dessin animé du Chat du Rabbin vous valait celui de meilleur film d'animation. Et en 2015, vous avez réalisé une adaptation du roman de Sébastien Japrisot, La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Enfin, parce que tout ceci ne vous suffisait pas, semble-t-il, vous ajoutez depuis quelques années à cette palette l'art du livre sans images, avec notamment 3 romans parus chez Albin Michel, L'Éternel en 2014, Comment tu parles de ton père, c'était en 2016, et cette année, vous connaissez peut-être. Je m'arrête là, Johann Sfar, mais je vous propose qu'on commence aussi par là, par cette profusion extraordinaire, à la fois en nombre et en genre de projet. Vous, vous l'attribuez à quoi? Est-ce que c'est une peur du vide? Est-ce que vous avez besoin d'avoir toujours plusieurs projets en cours pour avancer?
Je ne sais pas du tout. J'espère. J'adore dessiner, j'adore écrire. J'ai jamais rien fait d'autre que de raconter des histoires. C'est la chose qui me rend le plus heureux. Je ne suis pas hystérique dans le sens où j'ai des journées extrêmement paisibles. Mon secret pour écrire et dessiner autant que j'en ai envie, c'est que je ne fais rien d'autre, je ne sais rien faire d'autre et je ne veux rien faire d'autre. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je dis non, je dessine, on me fiche la paix. Donc j'ai beaucoup grandi avec ce non, je dessine. J'en fais usage à chaque fois que c'est nécessaire. Là, ça a l'air très simple, mais il y a une banque qui s'était singularisée par le pouvoir de dire oui. Moi, j'ai le pouvoir de dire non. Et au quotidien, je ne me fais pas que des amis avec ça. J'ai lu peu de philo. J'étais un très mauvais élève de philo, mais j'y allais quand même. Les lettres à Lucilius de Sénèque m'ont énormément aidé. Je les ai lues au sortir de l'enfance et il explique que les gens sont beaucoup trop radins avec leur argent et pas assez avec leur temps, parce que le temps, ça revient pas. Moi, je donne très très peu mon temps. Après, le centre de mon travail, c'est le dessin. Quoi que je fasse, c'est le dessin. Même quand je fais un roman, c'est un roman de dessinateur. Quand je fais un film, c'est un film de dessinateur. Moi, j'aime beaucoup le mot de bande dessinée, puisqu'on est dans une bibliothèque. Les librairies, c'est la même chose. On cherche toujours à classer les choses. Donc, à un moment, pour vendre des bandes dessinées au public littéraire, on a inventé le terme de roman graphique. Mais après, c'est complètement idiot. C'est une bande dessinée. C'est un médium qui est étrange. Parce qu'il charrie toujours son souvenir de récit jeunesse ou de nostalgie. Il procède à mes yeux d'un système de lecture infiniment complexe. Les auteurs de bandes dessinées sont les premiers à dire qu'ils n'y comprennent rien. Et c'est tout le paradoxe des bandes dessinées, c'est que c'est insondable de complexité et de poésie et lisible par un enfant. Je ne vois pas ce qu'on peut rêver d'autre comme véhicule pour entrer et en littérature et en narration. En tout cas, j'ai jamais eu pour ambition de faire autre chose que ça. Et pratiquer d'autres disciplines, pour moi, c'est renforcer mes bandes dessinées. C'est les faire dialoguer. Maintenant, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on écrit, je ne sais pas comment on dessine, je ne sais pas comment on filme. Quand j'ai dû réaliser mon premier film et qu'on m'a dit mais est-ce que tu vas être un bon cinéaste ? J'ai juste répondu que ça faisait 20 ans qu'on me disait que j'étais un mauvais dessinateur, donc je pouvais aussi essayer de faire des mauvais films.
L'une des questions traditionnelles qu'on adresse dans ces masterclass à nos invités, Johan Sfar, c'est celle de la vocation et de leur rapport à cette idée de vocation. Vous avez beaucoup raconté, que ce soit dans vos bandes dessinées, dans vos récits plus récents, que vous avez commencé à dessiner très jeune. Est-ce que ce terme de vocation, ça vous parle ? Est-ce que c'est un mot que vous utiliseriez pour parler de la naissance de votre passion pour le dessin ?
Oui. Oui, dans le sens où je dessinais pas mieux que les autres, mais je dessinais tout le temps. Je dis beaucoup, et les gens pensent que c'est un jeu de mots, que je fais le malin, je dis beaucoup ma religion, c'est le dessin. J'ai jamais rien dit d'aussi sérieux. J'ai pas ouvert un texte biblique depuis près de 30 ans. Pourtant, j'en parle à tort et à travers, preuve si vous voulez que je suis pas crédible. En revanche, je dessine nuit et jour. C'est mon outil pour comprendre le monde. Il y a une chose très juive, on explique qu'il ne faut pas pratiquer l'idolâtrie. Donc le dessin que je pratique n'est pas un dessin d'idolâtrie, c'est un dessin de sciences humaines. C'est un dessin pour comprendre, pour voir les visages, pour aller un peu au-delà. Et il y a une autre raison pour laquelle je dessine. George Steiner parle de réelle présence. C'est pas un projet esthétique, c'est pour jamais être seul. J'ai été marqué enfant avant l'âge de 4 ans par la disparition de ma mère. Ma mère ne me manque pas parce que je n'ai aucun souvenir d'elle. J'ai un immense vide. C'est sans faire de la psychanalyse à 2 euros. Le vide, ça appelle le dessin. On veut faire des images, on veut faire des totems. Je crois que l'envie de présence est infiniment plus sérieuse que le projet esthétique. Ensuite, le projet esthétique intervient au moment où on essaye d'échapper au nihilisme. Le nihilisme, c'est la complexité du monde, l'impossibilité à le dessiner, le sentiment qu'on ne va pas s'en sortir. Et à ce moment-là, on s'invente un petit solfège. À ce moment-là, on trouve... c'est la différence avec les musiciens. Les musiciens, ils l'ont, la méthode, ils l'ont, le solfège. Le dessinateur doit se le réinventer tous les jours. Donc, échapper au nihilisme, c'est s'inventer des lois de dessin, de narration. Clément Rosset, quand j'étais son étudiant, appelait ça le chiffre esthétique de l'existence. Je suis très attaché à cette idée-là. Comme je souhaite vendre le plus possible mon chat du rabbin, j'ai donné une interview il y a une heure à un magazine catholique et où on m'a dit avec beaucoup d'étonnement. J'évite encore la presse juive, hein, mais trouver des règles pour le monde, c'est ce à quoi sert le dessin.
Mais de quel vous dites que le dessin a répondu pour vous au besoin de combler un vide, celui de la disparition de votre mère. C'est paradoxal quand on entend ça, parce que le dessin, c'est une activité solitaire. Qu'est-ce que c'est la compagnie qui est la vôtre quand vous dessinez? Qu'est-ce que le dessin vous apporte de ce point de vue-là?
Un de mes dessinateurs préférés, Fred, à la fin de sa vie, quand il était très malade, me disait j'ai dessiné ces personnages pendant toute ma vie. J'ai plus la force, maintenant ils se dessinent eux-mêmes. Je parlais du magazine catholique, c'était pas pour faire une blague, c'est parce que la dame me dit, est-ce que c'est vrai que chez les juifs, la question de la foi ne se pose pas? C'est absolument vrai. On demande pas à un juif de croire en Dieu. On demande à un juif d'appliquer la loi, et un juif n'a pas le droit de s'interroger sur la nature de Dieu. Donc, partant de là, ma foi, elle est dans le dessin. Au moment où je dessine un personnage imaginaire, je suis obligé de croire non seulement qu'il existe, quand Fred disait « mes personnages se dessinent tout seuls », mais en plus qu'il a quelque chose à me dire. Et ce n'est pas une construction, ce n'est pas un mensonge, c'est que j'y crois absolument au moment où je dessine. Lorsque je dis en interview « j'ai pas fait de chat du rabbin pendant 2 ans parce que le chat ne me parlait pas », je me suis réveillé un matin, il m'a parlé, je vois ce qu'il a à me raconter, je ne suis pas en train de faire de la poésie ou de faire le malin, je suis en train de raconter ce qui se passe au moment où je dessine et j'écris. C'est sans doute très idéaliste, mais il me semble que ce n'est pas moi qui dessine et pas moi qui écris. Je suis spectateur d'un récit en train de se faire et qui, je l'espère, va me surprendre à chaque case. Surprendre le lecteur, c'est assez facile parce qu'on a un an pour faire son récit. Lui, il va le lire en 20 minutes. Dans le meilleur des cas, il ne sera pas au sanitaire, mais enfin, ça arrive tout de même. C'est le drame des bandes dessinées, on sait où on nous lit. Mais le lieu où on dessine, le lieu où on invente ce personnage, pour qu'on n'en ait pas marre après cet album, pour qu'il ait encore envie de vous parler, il faut absolument le laisser faire. Et je dois dire qu'on a... On a tué l'écriture cinématographique depuis une vingtaine ou une trentaine d'années avec les méthodes de scénario. On est venu, d'où viennent les méthodes de scénario? Dans les années 20-30, il y a un monsieur qui s'appelait Laio Segri qui a inventé une analyse de théâtre a posteriori. Quand une pièce existait, il l'analysait et il en faisait de la critique. C'était pour faire de la critique littéraire. On s'est mis à donner ça aux scénaristes, à leur dire, tu vas faire du cinéma avec ça, donc tu vas rationaliser tout ton travail. Ça, c'est fouler aux pieds la notion magique et étrange de monde de la représentation, de personnages,
Et dans voler poétique, je dis ça comme on parlerait d'une pitié. Croire à un personnage, c'est croire que quand on jette un caillou, il va finir par retomber quelque part. Si je lance un personnage dans une aventure, il n'a pas besoin de moi.
J'en reviens à la naissance de votre passion pour le dessin. Vous avez mentionné que vous avez fait d'abord des études de philosophie, c'était à Nice, avant de faire les Beaux-Arts. À quel moment est-ce que la bascule, en tout cas, de cette passion enfantine pour le dessin à l'idée que vous pourriez faire de ça un métier, c'est-à-dire aussi à l'idée de rendre vos dessins publics, est né pour vous? Comment ça s'est passé?
À l'âge de 6 ans, au cours préparatoire, on m'a demandé ce que je voulais faire comme dessin, il y avait une fiche, et j'avais dit pompier ou dessinateur. Pompier, ça n'a pas été possible. Et donc, mon papa souhaitait que je fasse de vraies études, donc j'ai réussi à éviter le droit, parce qu'il était avocat, et je suis allé en philo, il y avait des profs formidables, mais pendant ce temps, je faisais des cours du soir de dessin à Nice, dans une école pour personnes âgées, et ça se passait très bien, d'ailleurs, c'était super, il m'appelait anglais, parce que je mettais plein de couleurs. Et ensuite, il y a eu la maîtrise de philo à Nice et les Beaux-Arts de Paris en même temps, et la rencontre magique de Jean-François Debord et de ses deux assistants, messieurs Comard et Fontaine, qui enseignaient cette science qu'a inventée Debord, qui s'appelle la morphologie, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'anatomie artistique, qui consiste à étudier un corps, un animal, une plante, un meuble, avec la même exigence et la même recherche de structure. L'acte fondateur de Debord, quand il est arrivé aux Beaux-Arts de Paris, a consisté à brûler le matériel de dissection. Il a dit, on n'ouvrira plus un cadavre aux Beaux-Arts, on regardera les gens vivants, habillés, en mouvement, et c'est comme ça qu'on apprendra quelque chose. Avec mon esprit contradictoire, j'ai voulu faire l'inverse. Dès qu'il a eu le dos tourné, j'ai appelé un copain légiste et je suis allé assister à des cours de médecine légale. Ça m'a aidé à régler certaines angoisses vis-à-vis de ma mère. Je crois pas que ça m'ait appris grand-chose en dessin. Si, j'ai appris que quand un corps est mort, il n'a plus rien d'humain. C'est pas plus que le poulet qu'on va manger. D'ailleurs, ça se découpe de la même façon. Mais si on veut parler un instant de la religion du dessin, la religion du dessin, c'est se dire qu'il y a quelque chose de magique dans une forme vivante et qu'on pourra résoudre ni par la science, ni par la religion dans sa version la plus scolastique.
Dans votre livre « Comment tu parles de ton père », vous vous référez à un constat d'Hugo Pratt que vous faites vôtre. Vous écrivez « Il existe une chaîne vivante et ininterrompue depuis l'origine du dessin. C'est parmi les dessinateurs qu'un dessinateur doit se chercher des parents. » Quels ont été vos parents dans ce domaine, Johann Sfar? Vous avez parlé de Fred tout à l'heure, je sais qu'il y en a d'autres.
On n'a pas besoin de les rencontrer. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec Fred, beaucoup de temps avec Moebius. J'ai jamais rencontré Hugo Pratt et c'est probablement celui à qui je dois le plus. Il y a Sempé que j'ai eu la chance de beaucoup voir. Pratt a dit beaucoup de phrases très utiles parce que c'était sans doute de tous les dessinateurs le plus prétentieux et le plus orgueilleux. Je crois que je fais un peu la course avec lui, à savoir qui aura les chevilles les plus enflées. Et il avait plein de méthodes pour éviter ça. C'est par exemple quand on lui demandait de participer à un jury littéraire, il disait « Est-ce que j'ai le droit de voter pour moi ?» On disait « Enfin, Hugo, non. » Il disait « Bon, bah tant pis, j'y vais pas. » Mais je comprends tout à fait. Au moins, il est sincère, parce que les autres auteurs n'osent pas le dire. Au moins, c'est ça. Et il avait deux techniques pour éviter de devenir mauvais, parce que l'orgueil, c'est pas grave, c'est grave si ça vous rend mauvais. Il avait deux techniques. La première, on lui disait « Qu'est-ce qui vous pousse à dessiner ?» Il disait « Ah, c'est très simple, l'argent. C'est très simple, quand j'ai besoin de payer mon loyer et que je suis en retard, j'ai pas le temps de me demander si c'est bon ou pas, et j'ai pas le temps de me demander si je suis un artiste ou pas. » Ça évite les questions. Et l'autre chose, c'était sa façon de parler de la postérité. Il disait, il faut pas s'attacher à un nom d'auteur, il faut pas s'attacher à l'œuvre d'un auteur, il faut s'attacher à cette chose qui les transcende et qui se transmet de l'un à l'autre. On appellerait ça du compagnonnage dans d'autres métiers. Et dans son cas, c'est limpide. Il a commencé à dessiner en imitant des dessinateurs comme Milton Caniff, des grands dessinateurs américains. Il a amené ça vers autre chose. Et après lui, d'autres générations, j'espère que j'en fais un petit peu partie, ont essayé de s'inspirer de son travail pour aller vers d'autres choses. Je dessine pas une case du Chat du Rabbin sans penser à Hugo Pratt. Et ce dont on ne parle pas assez quand on évoque les bandes dessinées, c'est la lettre. La même ligne qui va dessiner les lettres, les bords de cases, le personnage. Il y a quelque chose... une journaliste m'a demandé il y a quelques heures si la bande dessinée, c'était de l'oralité ou pas. J'ai adoré cette question, parce que oui, profondément, c'est de l'oralité. En ce moment, beaucoup de grands philosophes se plaignent de la disparition de l'écrit au profit de l'oral, parce qu'il y a des films YouTube partout, et on se dit c'était... Mais on se rappelle pas, pourtant c'est des vieux philosophes qui parlent, qu'à l'époque des Grecs, qu'à l'époque des anciens Hébreux, quand l'écrit est arrivé, tout le monde a vu ça comme une catastrophe. On se dit, mais le vrai enseignement, il se fait à l'oral, il se fait entre le maître et l'élève, et si en plus ils peuvent se tripoter, c'est encore mieux. Mais si, vous voyez bien dans le banquet de Platon, quand le jeune homme veut aller contre Socrate, et Socrate lui dit, ce voisinage-là, t'apprendras pas grand-chose. Mais au moment où l'écrit est arrivé, et a voulu figer le savoir, C'est là qu'on est parti vers le littéralisme et vers tout ça. Donc, à mes yeux, la bande dessinée, c'est une manière de se sauver du littéralisme. C'est une manière de montrer un personnage qui dit, de voir la tête qu'il fait, de voir ce qui lui arrive, et de lutter entre ce qu'il a dit et ce qu'il est en train de faire. Et le jeu de la bande dessinée, c'est il dit quelque chose, mais il est en train de faire autre chose. Et...
Vous avez parlé de Moebius. Est-ce que je sais qu'il fait partie de vos maîtres, si tant est que ce soit possible d'avoir des maîtres dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle importance il a eu pour vous ?
Immense parce que il y a un absolu chez Jean Giraud Moebius, c'est il a fait un, j'essaie de trouver un terme France Culture pour concours de bites, mais il ne me vient pas à l'esprit. Je mesure à quel point c'est pas
le
moment.
On a le droit de dire concours de bites sur
non,
France
non, on n'a absolument pas le droit. Il faudrait l'écrire en inclusif, mais je ne sais pas combien de E ajouter. Et toujours est-il que Moebius Giraud s'est lancé un défi et il est allé jusqu'au point où il était imbattable en dessin. On était un jour, Christophe Blain et moi, dans son atelier. Il était en train de dessiner un des derniers Blueberry. Et il y avait une case toute bête où le personnage devait juste entrer dans une ville. Il y avait le bonhomme sur son cheval, il a mis la caméra derrière la ceinture du personnage, on voyait une crosse, une gâchette, une rue, plein de personnages, un arrière-plan, la lune... Jean, pourquoi tu fais ça? T'es en retard. Je fais ça parce que les gars qui me copient, ils peuvent se lever tôt, ça, ils y arriveront jamais. Et je crois que ce qui l'agaçait prodigieusement, c'est que ni Christophe Blain, ni moi, ni aucun de ses admirateurs n'avons jamais tenté d'entrer en concurrence avec lui, parce qu'à mes yeux, c'est un dessinateur inégalable. Pas seulement par le goût, par le talent, mais par la prouesse, au sens vraiment de virtuosité, de sens de l'espace, d'ouvrir des fenêtres dans les cases et d'entrer vraiment en folie. Il dessinait le nez sur la feuille comme ça. Ce qui m'a appris très tôt, c'est que je dessinerai jamais aussi bien que lui, que je dessine absolument pas dans le même style que lui, mais ça m'empêche pas d'essayer à chaque case. Il utilisait de manière surabondante les photographies, en même temps il détestait ça, et en même temps il disait on est beaucoup plus fort que l'appareil photo parce que cet abruti il y arrive. Et le jour où il m'a expliqué que le dessin consistait à ne pas y arriver, là je me suis dit que c'était dans mes cordes.
Est-ce que ça veut dire que vous, quand vous dessinez, vous avez aussi en tête cette ambition ou ce challenge d'être inimitable à votre tour ? Est-ce que vous pensez aux dessinateurs plus jeunes ou qui pourraient vous considérer comme un modèle et vous vous dites j'espère que personne ne va m'arriver à la cheville ?
Non, parce que je ne dessine pas du tout aussi bien que Giraud, mais comme un chanteur, oui. Comme un chanteur, oui, dans la mesure où vous pouvez faire toutes les reprises de Brassens que vous voudrez, vous préférez entendre Brassens. Ce qui m'émeut dans un roman, dans un film ou dans une bande dessinée, c'est d'entendre une voix singulière, qui s'inscrit peut-être dans une école quelque part, mais qui est singulière. J'ai toujours tenté de dresser des liens entre des formes d'art qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir, entre la peinture de Chagall d'un côté, les récits d'Isaac Babel de l'autre, la bravade de Romain Gary, la folie de Fellini. Et la bande dessinée, c'est un peu comme un herbier, c'est un peu un lieu où on peut faire voisiner tout ça. Et il y a toujours quelque chose d'un cahier d'écolier dans une bande dessinée. Donc j'ai passé ma vie à me trouver des maîtres. J'ai fait un nombre incalculable de bandes dessinées, livres en hommage à Gainsbourg, Brassens, Dali, Gary. Ça agace prodigieusement Lewis Trondheim. Il dit mais arrête avec ça. J'ai pas tellement envie d'arrêter avec ça. Je préfère me trouver des maîtres plutôt que de... J'ai la chance d'être professeur aux Beaux-Arts de Paris depuis maintenant un an et demi. J'y suis arrivé avec la certitude qu'une école d'art ne sert à rien et qu'un prof d'art sert absolument à rien du tout. Donc je m'assieds parmi les élèves, je fais mon boulot, ils font leur boulot, puis ensuite on s'explique que c'est pas bien, puis on va déjeuner. Je sais pas où je mets l'orgueil, mais pas là-dedans.
Parmi vos maîtres, il y a Saint-Exupéry, dont vous avez adapté Le Petit Prince. Chagall, vous l'avez mentionné. Vous vous référez aussi très souvent à Prévert. Brassens, vous l'avez dit. Tous ces gens font partie d'une famille d'artistes qui ont peut-être pour point commun quelque chose qu'on pourrait dire d'une naïveté, au sens non péjoratif du terme. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous attire chez ces auteurs, la naïveté ? Est-ce que vous vous sentez faire partie de la même famille ?
Si ça consiste à lutter contre le nihilisme, oui, sans doute. Il y a cette phrase qui est sans doute ma préférée dans Les Racines du Ciel. On dit mais Morel, finalement, vous êtes un romantique, et il répond par rapport à la merde, oui. Je crois qu'on est hanté dans notre monde inquiet par deux dangers. Le premier, c'est le fanatisme, c'est l'excès de croyance. Le second, c'est le nihilisme. C'est après tout. La naïveté de Saint-Exupéry, elle est assez étrange quand même. C'est un type qui a pas mal fait l'aviateur, qui a vu crever pas mal de copains et qui en sort un récit plein d'espoir. Ça m'intéresse beaucoup. Le type qui a fait la guerre, qui a traversé toutes sortes de choses, je pense à Gary aussi, et qui en tire des récits où il essaie de sauver quelque chose. Il vous fait l'histoire d'un type qui, dans une grande ville, se sent moins seul quand il y a un python autour de son cou. La candeur, ça me paraît extrêmement important. Le lien direct, Tolkien en parle beaucoup, avec l'enfance, jamais fermer cette porte-là. J'ai évité le ridicule aujourd'hui, j'ai loupé de peu le prix 30 millions d'amis du roman. Avec mon éditrice, on était terrifiés parce qu'elle m'a dit déjà que t'as pas eu de prix littéraire, si t'as celui-là, on va te vanner pendant 20 ans. J'avais préparé mon petit discours parce qu'en plus, il y avait Houellebecq dans le jury, puis je l'adore sans l'aimer, donc j'avais des trucs à lui dire. Je voulais parler des gens qui mettent des animaux dans leurs livres, et c'est très dangereux parce qu'ils sont jamais très loin de la misanthropie. Mettre en avant l'animal, le raconter, c'est risquer à un moment de détester les hommes, et j'en suis jamais très loin. Quand je parle d'éducation canine dans mon dernier roman, et je peux pas ne pas voir que tout ce qu'on dit pour le conditionnement des chiens, parce que c'est de ça qu'il s'agit, fonctionne à merveille chez les humains, fonctionne à merveille et sur mes enfants, et sur mes élèves, et même sur mes camarades, et même sur moi-même, c'est l'amour. Comment un chien va faire très très bien une chose, parce qu'il l'a fait une fois et ça a marché, après il a essayé de la faire 200 000 fois et ça n'a pas marché, alors là il est transi d'amour. L'amour, c'est la même chose.
Il faut peut-être rappeler que donc, le roman auquel vous faites allusion, vous connaissez peut-être, dans ce roman, vous racontez une anecdote qui vous est vraiment arrivée, dites-vous, qui est celle de la rencontre sur Facebook avec une jeune femme pour laquelle vous tombez en admiration, en tout cas vous êtes fasciné par elle, et puis ça se termine assez mal, ça se termine au commissariat, vous vous rendez compte en fait petit à petit qu'elle vous ment de part en part, et vous êtes obsédé par l'idée d'adopter un chien pendant tout le roman. C'est intéressant parce que dans vos bandes dessinées, il y a des animaux partout, évidemment le chat du rabbin, mais il y a très peu de bandes dessinées strictement animalières, peut-être à part Donjon. Vous représentez rarement les personnages sous forme d'animaux.
C'est très vrai.
Pourquoi ?
Je laisse ça à Lewis Trondheim. Ça s'appelle, je crois, du zoomorphisme. Lewis Trondheim, il fait ça parce qu'il dit « Je lisais Mickey Parade quand j'étais petit, j'ai grandi, j'ai eu envie de lire des Mickey Parade pour les grands. » Moi, mon truc, mon souvenir, ce sont les fables morales qu'on me lisait quand... J'ai de grosses questions avec le moralisme, parce que j'essaie de jamais donner la solution, j'essaie de jamais expliquer. Il n'y a rien qui m'agace plus que le matin d'allumer la radio et d'entendre des abrutis soi-disant comiques qui m'expliquent le camp du bien. J'ai envie de les finir à coups de batte de baseball. Je supporte. C'est pas qu'ils n'ont pas raison, c'est que j'ai pas besoin qu'on me dise le bien et le mal, parce que je suis aussi malin qu'eux, et mon lecteur aussi. Donc, faire des fables morales, sans morale à la fin, mettre des animaux dedans en ayant la conscience que mon chat, c'est à la fois le renard du roman de Renard, que c'est le serviteur de Figaro ou de Scapin, c'est une figure comme ça qui est là pour dire le truc qu'on veut pas au moment. Utiliser l'animal là-dedans, dans son rapport à l'homme, ça me paraît intéressant parce qu'il y a aussi la question du rabaissement si cet animal était un être humain. Dans le chat du rabbin, pour moi, il est évident que le chat, c'est ce petit enfant qui n'a pas encore la parole. On lui parle pas, il n'a pas le droit, il a ceci, alors il ouvre sa gueule, mais il n'est pas censé l'ouvrir. Tous les enfants ont cette situation à un moment, donc je souhaite que ce genre de récit ouvre à autant d'analyse et de jeu qu'un conte. Mettre des règles très précises, comme dans Mickey Parade, ce serait sortir du conte.
Je voudrais qu'on rentre un peu dans la fabrique de vos travaux de dessinateur, Johan Sfar, qu'on se plonge un peu dans votre atelier, si vous voulez bien. Comment est-ce que vous vient l'idée de départ d'un album ? Peut-être prenons un exemple concret avec Le chat du rabbin. Est-ce que le point de départ de cette série, ça a été justement l'idée d'un chat parlant ? Est-ce que ça a été d'abord l'envie... sans forme à l'origine de rendre hommage à ce monde de l'Algérie séfarade qui est celui de votre père. Enfin, votre père a grandi en Algérie. Qu'est-ce que c'était l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qui est l'origine ?
Dans le cadre du chat, il y a eu un élément intime, c'est la naissance de ma fille, donc de mon premier enfant, et un élément extérieur, c'est l'attentat du 11 septembre. Il me semble que ça a mis en route une petite machine où j'ai cessé d'être embarrassé par mes origines maghrébines. Toute ma famille maternelle vient d'Europe de l'Est, ce sont des juifs très intellos, très tout ça, je les ai toujours adorés au-delà de tout. Mais comme j'ai grandi dans ma famille du Maghreb, pour moi c'était à la fois tellement quotidien, tellement habituel, et j'allais dire tellement inintéressant. Et j'ai grandi dans cette ville de Nice qui est pas la moins raciste de France, où mes amis dont la maman portait le voile parfois, avaient honte quand la maman venait les chercher à l'école. Donc dans ce contexte-là, j'étais pas très fier de mes origines du Maghreb. Et quand j'ai commencé... à dessiner le chat, pour moi c'était un truc d'Europe de l'Est. C'était des contes de Martin Buber, de machin. Et à un moment je me suis dit, mais pourquoi pas en Algérie ? Et je l'ai fait comme ça, le chat existait, je l'avais adopté 2 semaines avant, je crois que j'avais juste envie de dessiner ce chat, et avant toute chose, ce qui m'est venu, c'est le titre, j'avais Le chat du rabbin, et ma méthode d'écriture en bande dessinée, elle est bête comme chou, je fais une case, et puis après je fais la case d'après, puis après je fais la case d'après, puis après je tourne la page. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de machin, après j'ai le droit de jeter des pages, j'ai le droit d'en enlever, j'essaie que ça ait l'air juste. Je crois que ça a beaucoup à voir avec une rhapsodie. Vous savez, ce sont ces partitions musicales où il y a des choses différentes, mais qui vont trouver leur place dans un ensemble. Donc je ne m'interdis pas de passer du pinceau à la plume, je ne m'interdis pas d'être photographique dans une case et comique ou bizarre dans l'autre. Aujourd'hui, ça paraît évident. Il me semble qu'au moment où je l'ai fait, ce n'était pas habituel de faire ce genre de choses. Ce dont je suis le plus heureux au sujet du chat, et je suis assez surpris de dire ça, c'est que c'est une bande dessinée familiale. Je crois que j'avais rien pour faire un auteur familial. Je crois que c'était pas du tout mon objectif. Si j'avais dit ça, je me serais mis des baffes à moi-même à l'époque. Et je suis très heureux de ça parce que ça m'a permis énormément de rencontres. Aujourd'hui, ce qui m'aide à me mettre à dessiner, c'est que mes personnages ne m'appartiennent plus. Je reçois des dessins très souvent de lecteurs de tous âges. Il n'y a pas que les enfants qui dessinent. Ça me rend très, très heureux. Je dois confesser une chose aujourd'hui, contrairement à beaucoup d'auteurs, c'est qu'Amélie Nothomb répond tous les jours. Ça doit faire 25 ans que je n'ai pas répondu à un seul lecteur, parce que je trouve que ce n'est pas comme ça qu'on répond et ça crée des confusions. Donc voilà, je fais partie de ces méchantes personnes qui ne répondent pas à leurs lecteurs, mais je ne réponds pas non plus à mes proches, donc je pense que ça va.
Bon, alors tout va bien. Vous dites que vous dessinez les choses case par case. Malgré tout, pour un album, j'imagine quand même que vous écrivez un scénario avant
ça
de vous jeter dans le dessin. Non, jamais.
Enfin, c'est de la bande dessinée. C'est de la bande dessinée. Ce qui est merveilleux dans la bande... Ça, ce sont des analyses a posteriori. Le thème, le sujet, le machin... Ce qui est merveilleux dans la bande dessinée, c'est ce langage qui ne ressemble pas à un langage dactylographié, qui ne ressemble pas à une pièce de théâtre, qui ressemble à la juxtaposition, comme dans une page de journal, d'images, de lettres, et on laisse le lecteur faire son boulot. Et non, il n'y a jamais de scénario.
Alors,
les fois où je suis obligé d'en faire, c'est quand un éditeur ne veut pas signer une BD. Alors déjà, c'est pas sur le chat, c'est quand je pars sur d'autres trucs. Donc il demande que je résume. Donc j'écris sur 10 pages le résumé d'un album ou deux. Il accepte. Ensuite, je mets les pages à la poubelle et j'écris autre chose.
Mais il vous est arrivé.
Mais parce que si je sais ce qui va se passer, j'ai pas envie de le faire. C'est tellement, il faut pas tout à fait se mentir. C'est un peu fastidieux. Après, quand on y est, mais se mettre au boulot, c'est un peu fastidieux. Donc la seule chose qui me bouge pour y aller, c'est que je sais pas ce qui va se passer. Et ça m'intéresse, je vais voir la suite de mon sitcom.
Mais il vous est arrivé d'écrire des scénarios pour d'autres. Dans ce cas-là, vous passez par l'écrit ou bien vous procédez
différemment? C'est quand même écrit, mais c'est écrit en bonhomme patate, quoi. C'est écrit sous forme de storyboard. Ensuite, non, la question s'est posée quand il a fallu faire des romans. En réalité, j'ai toujours fait des romans, mais ça fait juste quelques années qu'ils se vendent. Avant, ça passait très inaperçu. Quand il a fallu écrire plus régulièrement des romans, je me suis dit que l'ordinateur, ça n'allait pas aller, ça allait m'assécher. Donc je me suis mis à écrire à la main, là, comme... faut pas que je dise les jeunes filles, comme les jeunes gens, mais un peu les cahiers de colis. Et ce qui était très... Parce qu'après, il fallait taper, j'écrivais en une journée et je mettais 2 semaines à taper. Et donc, maintenant, je fais ça sur des ordinateurs, mais des ordinateurs assez petits pour les amener partout, pour que ça ait l'air d'un carnet. Donc j'ai le plus petit iPad qui ne se fabrique plus, donc j'espère qu'il va pas se casser. Il est comme ça. Et j'ai un clavier chinois là qui va avec. Et ça, j'écris 17 pages chaque jour, je sais pas pourquoi.
C'est un chiffre précis que vous vous fixez
Je suis très mystique et très comme ça superstitieux. Et 17 pages, au-delà, c'est pas bien. Et en dessous, il faut toujours finir le truc. Et je me souviens, enfin, je sais pas pourquoi.
Mais par exemple, il y a une chose que j'imagine vous devez bien décider avant, c'est le format. Par exemple, Le chat du rabbin, c'est 6 cases. C'est 6 cases de taille à peu près équivalente, sous forme d'un gaufrier. Ça, c'est pas l'objet d'une décision.
C'est la question la plus importante. Si je me souviens bien, et je crois pratiquement la même année, Philippe Roth et Will Eisner ont sorti 2 livres qui avaient le même titre, Shop Talks, discussion de boutiquier, sur comment tu travailles, sur quel papier, à quel format. Donc, d'un côté, Philippe Roth est allé voir tous les romanciers qu'il aimait. Il leur a posé ce genre de questions. Et de l'autre, Will Eisner a fait ça avec Jack Kirby, avec tous les autres dessinateurs qu'il avait côtoyés. Ce sont des trésors nationaux, c'est des trésors mondiaux, ces 2 livres, parce que la plupart des auteurs depuis ont disparu. C'est la seule chose qui m'intéresse. À quelle taille, avec quel papier, avec quelle encre. Grâce à Lewis Trondheim, depuis 1 an, je travaille avec des stylos-plumes Fontaine japonais, dans lesquels on peut mettre de l'encre de Chine, donc de l'encre indélébile. Et donc, je peux dessiner à la plume partout. Avant ça, pour dessiner à la plume, j'avais besoin d'être chez moi parce qu'il me fallait une plume et un encrier. Donc certaines bandes dessinées étaient faites au feutre. Or aujourd'hui, même quand je dessine dans des cafés, voilà, Le chat du rabbin jusqu'au tome 5 était dessiné en petit sur des pages 24-32. Après quoi, j'ai décidé de vendre mes pages. Donc maintenant, je me mets à dessiner en grand parce que maintenant, je sais qu'elles sont au mur. J'ai envie qu'elles soient jolies quand elles sont sur le mur, comme ça. Et le fait de dessiner deux fois plus grand, ça m'amène à mettre davantage de détails, à y passer davantage de temps, à me poser des plaisirs de dessin que je n'évoquais pas avant. Donc voilà, toutes les questions de matérialité, de comment tu vas travailler, m'intéressent infiniment plus que les autres.
Et alors, comment vous prenez la décision, par exemple, de ce format 6 cases de, je pense, par exemple, par opposition dans Kletzmer, le format évolue au fil des pages. Il n'y a parfois pas de case du tout. Dans d'autres albums, vous travaillez avec un format presque scope, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si on dit comme ça pour de la bande dessinée, mais un format très large. Comment est-ce que vous vous dites, pour ce projet-là, c'est tel format de case ?
J'ai trouvé ce papier-là, j'ai fait comme ça. Sur le chat du rabbin, parfois, je fais mes crayonnés en petit. Ensuite, j'ai une feuille très grande, je mets une table lumineuse en dessous pour décalquer et je m'arrange pour faire bouger les crayonnés. Je me suis aperçu que quand je décalquais, c'était moins bien que quand je dessinais à partir de rien. Mais quand je fais pas de crayonné, c'est moins bien composé. Alors le truc que j'ai trouvé, c'est que je fais mon crayonné, je le mets à côté, je prends une feuille blanche et je dessine à main levée en regardant le crayonné. Et on va changer de méthode d'une case à l'autre et on en parle aux copains et eux ils disent on fait autrement. C'est passionnant. Il y a rien d'aussi intéressant que ça. Peut-être qu'on le dit pas assez, mais l'écriture c'est la même chose. L'écriture c'est la même chose et écrire un roman. Ça se fait avec des ciseaux, de la colle, du scotch. On peut faire ça sur ordinateur, mais c'est moins excitant. Mais je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au doigt plein d'encre.
Et comment est-ce que vous savez, Johannes Farr, qu'une planche est terminée ? À quel moment vous décidez que là, c'est fini, je m'arrête ?
Comme un révélateur photo. Quand on faisait sortir ces photos tout seul, il y a un moment où le photographe décide que trop, ça va être trop sombre. On se plante. Edmond Baudouin, que j'ai eu la chance de fréquenter depuis que j'avais l'âge de 12 ans, parce que son fils était dans la même école que moi, me disait « On sait tous composer aussi bien que dans un tableau, mais en bande dessinée, il faut pas le faire, sinon on passe pas à la case d'à côté. » Donc une case de bande dessinée doit toujours avoir quelque chose d'un peu non fini et d'un peu déséquilibré pour t'emmener vers l'image d'à côté. Ce qui est important en bande dessinée à mes yeux, et c'est très compliqué à attraper, c'est le rythme et la mélodie. Klezmer, je l'ai fait dans des carnets avec de l'aquarelle, parce que je savais qu'on peut pas faire de bande dessinée à l'aquarelle. On peut faire des bandes dessinées avec des encres, avec des peintures, et des machins. L'aquarelle, c'est tellement fait pour l'illustration ou pour la note rapide, c'est de l'improvisation musicale. Ça va pas en bande dessinée. Et parce que ça n'allait pas, j'ai souhaité le faire. Et je pense effectivement que ça va pas. Mais c'est intéressant parce que ça me sortait du fer forgé du chat du rabbin. Le chat du rabbin a ce côté illustratif et fer forgé parce que j'ai utilisé de l'imagerie coloniale. Les femmes d'Alger, les litos de l'Algérie coloniale, pour mettre les récits de ma grand-mère. Ça, c'était très conscient. Un récit de colonisé raconté avec une imagerie coloniale, ça me paraît malicieux, c'est une manière de réconcilier tout le monde, et c'est tout de même un petit peu un regard en biais. Donc je crois que les meilleures réponses, la pertinence d'un artiste, ça va dans « comment tu fais ?». Beaucoup plus que pour tout. Depuis que je suis prof aux Beaux-Arts, mes élèves s'arrachent les cheveux parce que à chaque fois qu'ils m'expliquent le sens de leur œuvre, je cesse d'écouter, je vais ailleurs. Je n'accepte que les discussions sur comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu as voulu dire. En général, ça m'intéresse jamais.
À la fin de chaque album de la série du chat du rabbin, mais c'est vrai dans d'autres de vos séries, est déjà annoncé l'épisode suivant, par son titre au moins. Est-ce que vous envisagez un jour, vous envisageriez d'y mettre un terme à cette série ou est-ce que vous avez besoin de la considérer comme ouverte, enfin, cette série ou d'autres?
Non, quand un truc est fini, je mets fin. Quand un truc est fini, je mets fin. Quand je mets à suivre, ça veut dire qu'un jour, je vais faire la suite. C'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 20 ans, c'est peut-être dans 30 ans. Mais dans ma tête, les personnages sont vivants et ils continuent à vivre un truc. Après, le truc de mettre le titre de l'album d'après, ça me vient de James Bond. Je suis un grand fan de James Bond. Et à la fin de tous les James Bond, il y a marqué « James Bond reviendra dans » et il y a le titre. Alors j'adore ça. Et après, j'ai une petite superstition personnelle et ça, je l'ai toujours fait. Quand je reçois un chat du rabbin, à la minute où je l'ai en main, je le pose sur mon bureau et je commence à écrire le suivant, même s'il va sortir 3 ans après et que j'en fais que 2 pages. Mais il y a une catharsis, en tout cas chez moi, au moment où on tient le livre en main. Quand on a fini de l'écrire ou de le dessiner, il se passe rien du tout. Quand on le livre à l'éditeur, il y a un bon dîner ou un déjeuner. Mais le moment où on le tient en main, il y a un truc magique qui fait que la suite apparaît. Et ça accrédite ma folie selon laquelle le personnage a un truc à raconter. Et enfin, voilà.
Est-ce qu'au fil des années, vous ressentez toujours le même plaisir de dessiner Johannes Farr ? Ou est-ce que ça vous est arrivé d'avoir l'impression que ce plaisir-là, cette joie-là, s'émoussait ?
De plus en plus. J'aime de plus en plus dessiner parce que je crois que c'est un domaine où non seulement on fait des progrès, ça ne veut pas dire qu'on dessine mieux, mais ça veut dire qu'on voit à peu près où on veut aller et tout le reste existe aussi. Donc on aime voir un personnage vieillir, etc. Moi, je suis très pénible, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement patient. Les jours où j'ai pu dessiner, j'embête moins mon entourage. Je rêve de cinéma. À chaque fois que je suis sur un plateau de cinéma, j'ai hâte que ça se termine. Parce que moi, j'aime qu'on s'occupe de moi, et au cinéma, il faut s'occuper des autres. Il n'y a rien de plus horripilant. Et tandis que, les bandes dessinées, j'en ai jamais marre.
Il y a quelque chose de très frappant si on regarde votre œuvre de dessinateur dans son ensemble, c'est la variété des genres de récits. Il y a des histoires qui relèvent de l'héroïque fantasy, des histoires de vampires, des histoires de mousquetaires, et aussi des formats, on en a un peu parlé. Est-ce que ce qui vous pousse à attaquer un nouvel album, un nouveau projet, c'est aussi l'envie d'explorer un genre nouveau, je ne sais pas.
Oui. Oui, et après on attend le bon moment. J'ai un récit de super-héros depuis plus de 10 ans en tête. J'attends le moment. Je ne sais pas si c'est moi qui vais le dessiner. Je ne sais pas comment ça va venir. J'aime bien l'idée de ces auteurs de bandes dessinées populaires ou de romans popu qui allaient d'un genre à l'autre avec plus ou moins de bonheur. On voit Elmore Leonard qui a fait du western, mais qui a fait du roman noir, et puis qui a fait machin. En BD, Kirby, on l'a connu pour les super-héros, mais il a fait des BD d'horreur, il a fait des romances, il a fait des BD éducatives, il a fait des BD psychanalytiques où les gens racontaient leurs rêves. Moi, j'adore ça. J'adore l'idée... j'adore qu'il puisse y avoir des milliers de pages dans une œuvre. J'adore San Antonio et Alexandre Dumas parce qu'aucun universitaire ne peut prétendre les étudier, parce qu'aucun ne peut dire qu'il a tout lu, et de toute façon, on ne sait même pas si c'est eux qui ont tout écrit. Ça, c'est la situation idéale, à mes yeux. On aura compris, si on me regarde un peu, que j'aime pas trop les taiseux, j'aime pas trop les œuvres brèves, parce que je trouve qu'en faisant ça, on se donne l'air intelligent à peu de frais. Je crois que le plus grand écrivain français de la deuxième partie du XXe siècle, c'est Frédéric Dard. Je me sens un peu seul à penser ça. Et je suggère à tous ceux qui ne sont pas d'accord de replonger dans un San Antonio aujourd'hui et ils m'en diront des nouvelles. En tout cas, c'est le seul qui est au niveau de Goscinny. Voilà. Les deux grands écrivains du siècle, c'est Goscinny et lui, ça se joue entre deux. Albert Cohen, Romain Gary peuvent aussi concourir. Mais je précise que c'est très subjectif. Mais quand un type vous donne une idée de votre siècle avec autant de brutalité, de folie, et qu'en plus, j'allais dire, il est grand public, en plus, il est intelligible par tous. On est face à quelque chose d'important à mes yeux.
Parmi tous vos albums, les carnets occupent une place à part de par leur format, leur sujet, leur graphisme aussi. Je sais que vous entretenez un rapport un peu ambigu à ces carnets. J'ai lu qu'à un moment, en tout cas, vous considériez que c'était peut-être la partie la moins intéressante de votre œuvre, alors que du point de vue des lecteurs, on a un rapport assez fort à cette partie-là de votre travail. Pourquoi est-ce que... vous, ça vous semble pas la partie passionnante de Johann Sfar?
Parce que c'est ce que j'utilise pour me mettre au boulot. C'est-à-dire, je fais 1, 2, 3 pages de carnet, puis après, je fais une vraie bande dessinée. Ensuite, je suis assez rétif à certains écrits autobiographiques. Il suffit pas que ça fasse partie de la vraie vie pour que ça présente un intérêt. Et j'écris ces carnets avec les mêmes envies que quand je fais une fiction. C'est-à-dire, j'essaye que ce soit marrant, j'essaye qu'on s'ennuie pas, tout ça. Il me semble quand même que c'est plus noble et plus ambitieux de créer une fiction que de raconter sa vie. Pour moi, ça a le même statut qu'un dessin d'après nature. Donc, ce qui leur donne un intérêt peut-être aujourd'hui, c'est que je l'ai fait depuis vraiment longtemps. Je crois qu'il y en a 15 ou 16 qui ont été publiés, dont certains qui font 800 pages. Ils racontent une séquence de notre histoire récente qui a sans doute commencé aussi un petit peu avant le 11 septembre, où on a vu la montée de nombreux phénomènes, et peut-être que ça raconte un peu malgré moi une vingtaine d'années de vie quotidienne en France. Une page de carnet ne m'intéresse que si ce qui s'y passe est complètement banal, que si j'ai l'impression que n'importe quel lecteur pourrait vivre ce truc-là. C'est un peu les Simpsons. C'est très marrant à faire. Je ne sais pas quel intérêt ça présente. Mes proches ne les lisent pas, mes amis, ma famille ne les lisent pas. On en vend assez peu. Chaque carnet se vend autour de 10 000 exemplaires. Donc, j'ai très rarement rencontré des lecteurs de mes carnets. Parce que, autant on se souvient de tout ce qu'on a mis dans une histoire de fiction, autant dans mes carnets, j'oublie complètement ce que j'ai foutu dedans. Mais complètement. Et parfois, des gens sont venus me parler et m'ont parlé de détails pratiquement secrets. Et j'ai dit, mais comment vous savez ça ? Et lui, c'est dans ce carnet. Donc, je ne peux pas accorder beaucoup d'importance à des livres que je ne réouvre pas quand je les ai faits et qu'aucun de mes copains ne lit.
C'est intéressant que vous parliez de l'usage ou non d'éléments de votre vie quotidienne, votre vie réelle, parce que dans vos deux derniers romans, de manière très différente, mais dans « Comment tu parles de ton père » et dans « Vous connaissez peut-être », vous parlez aussi, d'une certaine manière, de votre vie intime. Pourquoi ? Comment l'envie pour ces deux ouvrages-là de partir de ce matériau intime, je ne sais pas exactement comment l'appeler, vous est venue et pourquoi avoir eu envie que ce soit des romans cette fois-ci ?
C'est très différent des carnets dans la méthode. Un carnet, c'est fait case après case et page après page. Ces deux romans, je me suis mis en personnage principal, faute de mieux, parce que j'ai lu tous les Philip Roth où il invente un faux nom pour parler de lui. J'ai l'impression qu'on est trop vieux pour ce procédé. Aujourd'hui, on peut mettre son nom. Simplement, c'est vraiment des romans parce que c'est complètement reconstruit. Je souhaitais faire un livre contre la croyance et contre le fanatisme. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'est arrivé dans l'année écoulée ? J'ai essayé d'adopter un chien qui a tenté d'assassiner mes chats. J'avais beau tout lui apprendre, j'avais beau le déradicaliser. Il a appris le skateboard, il a fait de la sophrologie. Il continue à avoir la haine des chats, ça peut pas se soigner. C'est son opinion, il faut respecter l'opinion du chien. Et je me suis mis à croire à une histoire sur Facebook, alors que tout le monde me disait que c'était une arnaque, tout le monde le voyait, mais les croyants, il n'y a rien à faire. Jusqu'au bout, ils vont aller dans leur délire. Et à partir de deux événements réels, j'ai vraiment construit une histoire pour raconter ces deux thèmes. Le récit sur mon père, c'est exactement la même chose. J'ai utilisé les souvenirs de 8 jours de l'agonie de mon papa dans Nice, qui n'a pas honte d'être aussi jolie dans des jours aussi tristes. Et j'ai mis plein de souvenirs le concernant. Chaque ligne a été pesée pour que chaque enfant en situation de deuil s'y retrouve. Donc peut-être que le résultat se ressemble, mais un carnet, c'est vraiment fait sans réfléchir, en tout cas de la manière dont je l'ai fait. Et ces deux romans, je les ai construits. Je pense qu'il y a 20 ans, j'aurais fait ce qu'on faisait à l'époque de Philip Roth, c'est-à-dire on change le nom et on change un peu le bonhomme et tout le monde... Ça me paraît un peu puéril comme procédé.
Vous écrivez aussi des albums pour la jeunesse. J'ai cité Petit Vampire pour commencer cet entretien. Il y a aussi Les Sardines de l'Espace que vous avez dessiné sur des scénarios d'Emmanuel Guibert. Est-ce que ça change quelque chose de savoir qu'on écrit pour des enfants, enfin pour un public qui peut inclure des enfants, Joanne Sarr?
Oui, c'est beaucoup plus important. Je suis un auteur jeunesse qui est allé petit à petit vers des genres plus mineurs, mais pour moi, le genre majeur, c'est la littérature jeunesse. On se construit quand on lit un livre dans l'enfance, ça devient une chose qu'on va relire 1000 fois, qui va... un adulte, c'est pour la distraction qu'il ouvre un bouquin, c'est pas du tout la même chose. Il y a rien de plus grave, de plus drôle et de plus important que de travailler pour les enfants, parce que les enfants, il y a encore quelque chose à en faire. Alors évidemment, la punition, c'est qu'aujourd'hui, je vois de très grands et de très beaux jeunes gens qui viennent à mes signatures et qui me disent « je vous adorais quand j'étais petit », ce qui à la fois me file un coup de vieux et en même temps me demande s'il m'aime encore aujourd'hui. Mais j'ai été fabriqué, et Alice Miller parle de « main secourable » pour l'auteur qui vous aide dans l'enfance à avoir une voix qui est heureusement pas celle de la famille, heureusement pas celle des professeurs, et qui vient vous compliquer un petit peu la vie. À mes yeux, il n'y a rien d'aussi intéressant et important que de travailler pour des enfants. Qu'est-ce que c'est que travailler pour des enfants ? Maurice Sendak disait qu'il n'y a pas de livres pour enfants, et des livres pour adultes, il y a des bons livres et des mauvais livres. Ceux pour enfants doivent être très bons. Ça veut dire que le héros a une taille d'enfant, en général. Ça fait que même si on parle de problèmes très difficiles, il va les envisager à taille d'enfant et il va y aller. Et ça fait... qu'il faut y croire 1000 fois plus. Il y a une interview extraordinaire de Roald Dahl où il parle de ça. Il dit « Enfant, je n'aurais pas pu écrire des récits pour enfants parce que les enfants sont trop bêtes pour écrire des récits pour enfants. » Et il dit « Maintenant que je suis adulte, il faut que je me rappelle de ce qui me faisait marrer quand j'étais petit, que je sois aussi libre que ça et qu'en même temps je structure comme une grande personne. Ce qui est marrant, c'est les glissements qui se produisent dans la tête de celui qui fait ces histoires-là ou celles. Quand j'avais pas encore d'enfants, je travaillais pour moi enfant. Quand j'ai eu des enfants, j'ai travaillé en pensant à mes enfants. Maintenant, j'ai l'impression que je travaille pour les personnages. Je suis dans des situations où Petit Vampire me manque, parce que décidément, c'est mieux quand on est avec lui. Oui, ça me tient beaucoup à cœur.
Vous avez la particularité, en tant que dessinateur, de travailler avec un grand nombre d'éditeurs. Vous avez longtemps été publié par l'association. Vous avez aussi, et vous travaillez encore avec Dargaud, avec Delcourt, avec Gallimard. Est-ce que c'est un besoin pour vous d'avoir plusieurs regards sur votre œuvre, Joanne Sfar, ou est-ce que c'est des considérations plus prosaïques ?
Oui, je crois que dans une période où beaucoup d'auteurs rêvent d'éditions à compte d'auteurs et d'auto-éditions et de toutes sortes de choses, il faut réaffirmer ce qui se passe de magique entre un auteur et son éditeur. L'éditeur, c'est tout simplement la personne pour qui vous alliez écrire. Ça va être la première personne qui va lire. Et c'est la personne qui va accréditer la fiction que vous êtes en train de bâtir et qui va avoir les yeux qui brillent ou qui va avoir le courage de dire bah, « ça, c'est de la merde, ça, il faut que tu coupes ». Je les trompe, mais je les garde longtemps, les éditeurs. Par exemple, Thomas Aragon, qui est dans la salle, a été mon éditeur chez Delcourt pendant longtemps. Il a présidé à la naissance de Petit Vampire, de Grand Vampire, de Donjon. Ensuite, il est parti chez Dargo. On a fait le Chat du Ramin. Je suis un être très infidèle, mais qui a des amours qui durent.
Est-ce qu'au cours du processus de création d'un album, par exemple, vous avez besoin de montrer votre travail très régulièrement ou est-ce que vous livrez un produit presque fini, pardon de parler
en termes ? C'est plus que ça. Les pauvres, ils ont vécu un enfer le jour où j'ai appris que les éditeurs japonais venaient chercher les pages toutes les semaines chez le mangaka. Ça m'a beaucoup plu et j'ai exigé qu'il en soit ainsi. Donc tous les lundis matin, quand je fais un Chat du Rabbin, Thomas toque à ma porte, il a un café, il prend les pages de la semaine, il part avec, j'ai peur qu'il se fasse agresser dans le métro, il me dit quand elles sont bien arrivées, et je fais celle d'après, et je lui dis de m'envoyer les photocopies, comme ça me donne 2 jours sans dessiner, 2 jours après les photocopies arrivent et je fais la suite. Moi j'ai besoin de ce genre de rituel, c'est vraiment, on va dire qu'on se donne un peu de l'importance, on confesse sa diva, mais ce sont juste des choses plaisantes, et je crois que ça... Ça change ce que le lecteur va recevoir, de savoir qu'on sait vraiment raconter cette histoire. On oublie de parler des camarades auteurs. Moi, j'ai toujours travaillé en atelier. Et même maintenant que je ne suis plus en atelier, je vais à l'atelier de mes copains tous les 2 jours. J'ai besoin de leur avis. Quand ils ne me parlent pas d'un livre, c'est très, très mauvais signe.
Vous êtes vous-même devenu directeur de collection. Vous dirigez la collection Bayou chez Gallimard. Pourquoi avoir eu envie d'embrasser aussi vous-même cette fonction-là, en plus de toutes les autres, Joanne Sfar?
Alors ça s'est pas passé comme ça. Je voulais être éditeur jeunesse. On a créé les éditions Bréal, où je voulais mélanger des bandes dessinées, des romans illustrés, des livres-jeux. Ils ont fait faillite en moins d'1 an. Ça m'a quand même valu d'être le premier éditeur de Riyad Satouf. On a publié Ma Circoncision. Il y a eu des bouquins formidables, je crois, chez Bréal Jeunesse. On avait Jean-Christophe Menu comme maquettiste. Et une fois qu'ils ont coulé, Gallimard Jeunesse m'a racheté. Ça tombe bien parce que je rêvais de bosser avec eux. Et ils ont suggéré qu'on continue, mais uniquement le volet bande dessinée. C'est devenu Bayou, qui est une collection qui, à mes yeux, a été très pertinente pendant longtemps, puisqu'on a sorti Aya Diopougon, on a sorti Hergé, il y a plein de super BD, je crois. Et elle est un petit peu en sommeil en ce moment, cette collection, parce qu'elle existait depuis plus de 10 ans, et je crois que les formats changent un peu. Mais là encore, quand on l'a fait, c'était pas mal. C'était un pont entre littérature jeunesse, bande dessinée, ça avait une forme de roman, et il y avait toujours une petite ouverture pour la jeunesse.
Je voudrais qu'on parle un peu de votre travail de réalisateur, parce que c'est aussi une forme d'écriture, après tout, que vous avez expérimenté. Votre film Gainsbourg, Vie héroïque, en 2010, c'était un projet très original, qui n'est pas exactement un biopic, plutôt une rêverie, une variation sur la vie de Gainsbourg. Est-ce qu'à un moment, vous aviez eu l'idée d'en faire un album de bande dessinée, et c'est dans un deuxième temps que vous vous êtes dit ça peut être un film, ou est-ce que d'emblée, vous avez imaginé ce projet-là comme un film de cinéma ?
Alors, beaucoup de producteurs voulaient qu'on fasse Le Chat du Rabat en film, ce qui est assez ironique parce qu'en ce moment, j'essaie de le monter, j'y arrive pas. Et j'avais refusé 7 propositions, après quoi les gens de Dargo m'ont dit donc la prochaine fois, soit tu motives ton refus, soit... Donc je me suis mis à me lancer sur ce dessin animé. Et un autre producteur est venu en me disant, écoutez, moi, je veux pas acheter un de vos personnages. Il y a quand même une BD que vous avez fait qui me plaît bien, c'est Pasquine, parce qu'il y a un artiste, il y a Paris, il y a du sexe, j'adore ça. J'ai dit, bon, Pasquine aujourd'hui, c'est Gainsbourg. Et il m'a dit, ça ne se fera jamais, la famille Gainsbourg a toujours dit non à tout. Là-dessus, je descends de son bureau, et je sais pas pourquoi, à l'arrêt de bus, je croise Tony Gatliff, le mec que j'adore, qui fait les films sur les gitans et tout. J'ai jamais vu ce mec, il me fait un sourire. Et comme je suis taré, je me dis, allez, ça porte bonheur. Je vais voir l'agent de Charlotte Gainsbourg, il prend un rendez-vous avec elle, je la vois, je dis, Charlotte, je vais faire un film sur votre père, ah bon, je vais faire plein d'aquarelles pour préparer, vous allez adorer, et la seule personne qui peut jouer votre père, c'est vous. Là, elle pleure, elle appelle sa maman en disant, maman, il va y avoir un film sur papa et je vais jouer dedans. Sa maman lui dit, et tu vas jouer mon rôle? Et elle répond, non, je vais jouer papa. Et là, on était parti. Après, elle a plus voulu le faire, on l'a fait sans elle et ça a été super. Enfin, je sais pas si c'est super. Si, ça a été super parce que, c'est pas moi qui ai fait ce film. C'est tous les gens qui sont venus par amour pour Serge Gainsbourg lui construire une espèce de comédie musicale ou de... Et moi qui ai toujours travaillé tout seul en bande dessinée ou dans des ateliers assez restreints, j'ai découvert que j'adorais faire le chef de chantier. Parce que quand on est réalisateur de films, bon, il y a 1% de travail artistique, mais 99%, c'est s'arranger pour que les gens se disputent pas, qu'ils pleurent pas, qu'ils soient contents, qu'ils aient bien à manger, que ceci, que cela. Et moi, qui suis le plus égoïste de la planète, pendant de brèves périodes de temps, faire semblant d'aimer m'occuper des autres, ça m'a beaucoup intéressé.
si on joue au jeu de la comparaison entre cinéma et bande dessinée ou le travail du dessin, vous nous disiez pour commencer que dans le dessin, les choses se faisaient en dessinant. Il n'y a pas de scénario préécrit, voilà. Dans le cinéma, c'est très différent. Il y a des étapes précises que sont l'écriture du scénario, le tournage et le montage en particulier. Est-ce que le fait d'expérimenter cette temporalité particulière, ça a eu une influence sur votre travail de dessinateur en retour ? Est-ce que la découverte du cinéma vous a aussi influencé par la suite ?
Absolument. Et je dois dire, avant tout grâce au montage. Je ne savais pas ce que c'était que le montage d'un film. On écrit une histoire, on la tourne, ensuite il y a des centaines d'heures, et ensuite on en fait absolument ce qu'on en veut, et en général on en fait autre chose. J'ai rendu à Gallimard le deuxième tome de la bande dessinée L'Ancien Temps, il y a 2 semaines. J'ai fait 100 pages de bande dessinée, et après j'ai décidé dans quel ordre j'allais les mettre. Ça, c'est très nouveau. Je fais ça depuis 2 ou 3 ans. Je fais toute ma BD sans numéro de page. Et après, je décide, soit j'en rajoute, soit j'en enlève, soit j'en coupe, soit je les mets dans un autre ordre. Le dernier Chat du Rabbin, si vous me faites l'amitié de l'ouvrir, vous verrez que il y a toute une scène, un machin, etc. Et au bout de 15 pages, il y a marqué, pour le rabbin, l'histoire avait commencé comme ça. À l'origine, c'était la page 1. Et Moebius, encore lui, avait dit une très jolie chose en exergue de son livre Arzak. Il avait dit, dans une histoire, il est essentiel qu'il y ait une porte, une fenêtre, un toit, car c'est comme une maison, mais pas nécessairement dans cet ordre.
Je pense, en vous écoutant justement à cette histoire des pages du Chat du Rabbin, le dernier tome, comme le précédent, compte 80 planches, je crois, ce qui était beaucoup plus que les premiers, qui avaient un format plus classique, disons.
Non, celui d'avant, il fait moins de pages. C'est le cinquième a pas mal de pages, le 6, il doit en avoir une cinquantaine.
Ah pardon, je me mélange. Alors, je sais qu'il y en a deux qui sont... Pages. En tout cas, il y en a deux qui sont plus épais. Comment est-ce que vous décidez qu'un album va être plus long qu'un autre ? Est-ce que c'est au fil de la plume de nouveau ? Ou est-ce que vous savez dès le départ que ça va être plus long ?
Non, je m'autorise à écrire comme ça vient dans le format... C'est le chic du chat, c'est qu'on m'autorise parce que ça se vend bien, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. En bande dessinée, pourquoi on s'attache au format de 44 ou 46 pages couleur ? Parce qu'il y a un intérêt industriel. C'est un nombre de feuilles à imprimer et à plier, ça permet de les faire vraiment pas cher et tout le monde est content. Le principe du chat, c'est que je l'écris comme je ferais pour un roman ou pour un film. Donc j'ai besoin d'amener l'histoire à son terme. Et je m'aperçois tout de même que... lire 46 pages, c'est un peu bref pour le genre d'immersion que je souhaite. Là, je m'étais promis que le prochain serait un peu plus court. Je suis en train de l'écrire. Je crois pas qu'il va réussir à être tellement court que ça parce que, et puis j'en ai marre de couper leur dialogue. J'en ai marre de m'obliger à les faire parler de manière brève. Quand mes personnages ont envie de parler longtemps, ils parlent longtemps.
Vous l'avez mentionné, vous avez en ce moment un projet d'adaptation du chat, mais cette fois-ci en prise de vue réelle, avec des acteurs réels. Pourquoi avoir envie de tenter cette expérience-là, après avoir adapté le projet sous forme animée ?
Parce que alors là, pour le coup, c'est mon côté moniteur de l'UCPA ou prof de CM2. J'ai vraiment l'espoir que ça peut servir un tout petit peu à quelque chose de montrer au cinéma des juifs qui ont l'air arabes. Je veux pas me résoudre à la haine intercommunautaire qu'on nous vend, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une communauté. Et très consciemment, je souhaite faire un film pour enfants, avec le chat du rabbin. Donc c'est Omar Sy qui fait le chat, c'est Christian Clavier qui fait le rabbin. Les gens m'ont quand même déjà reproché d'avoir pris un mec qui n'était pas juif pour jouer le rabbin. Est-ce que ça veut dire que les acteurs juifs n'ont pas le droit de jouer des catholiques ? Et est-ce que vraiment on doit compter les points comme ça ? Moi, je me méfie énormément de ce genre d'injonction, puisque le principe du théâtre ou du cinéma, c'est d'inventer... Donc, oui, j'essaye de faire ce film. Je pense qu'on a écrit une histoire qui est mignonne. On a des difficultés à boucler le budget en ce moment, alors que quand même, j'ai Omar Sy et Christian Clavier. Quand même. Et on m'a quand même demandé si c'était nécessaire qu'il y ait rabbin dans le titre. Il n'y avait pas de problème avec le fait qu'il y ait un chat. Et on m'a également demandé si ça pouvait être un récit contemporain. Mais ça devient une autre histoire.
En termes de succès public, vous faites partie des auteurs de bandes dessinées les plus célèbres et les plus lus en France. Je rappelle que Le Chat du Rabbin, c'est plus d'un million d'exemplaires vendus en France, qu'il a été traduit dans une quinzaine de pays. Je crois, quelle image est-ce que vous, Johannes Farr, vous vous faites de votre public ? Est-ce que vous vous faites une image de votre public ?
Je commence à bien les connaître parce que je tourne beaucoup, je signe beaucoup. Ce qui est très agréable, c'est que le public de bande dessinée se confond aujourd'hui avec le public de littérature. On peut vraiment parler d'un public de littérature générale, c'est-à-dire qu'il y a des gens de tous âges et de tous milieux. J'ai vécu, comme beaucoup de mes camarades, ce moment où la bande dessinée s'adressait aux amateurs de bande dessinée qui étaient dans leur extrême majorité des garçons, qui étaient plutôt adolescents. Et c'est pas du tout pour dénigrer cette sociologie-là, là, c'est qu'on est tout de même ravis quand on fait une histoire qu'elle parle à tout le monde et que les gens s'en emparent. Ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse, c'est la gentillesse qu'ils ont et le fait qu'ils acceptent de me suivre dans toutes sortes d'aventures, alors que je vais parfois dans des directions un peu surprenantes, enfin pour moi-même. Puis des fois ils sont très en colère. Des fois tout d'un coup il y a un truc qui plaît pas beaucoup. Je suis pas rassurant pour un éditeur. Il y a certains auteurs comme mon camarade Larsenet qui a la chance de vendre beaucoup à chaque bouquin. Donc ça c'est super. Moi non. Il y a des choses qui marchent très très bien et il m'arrive de pratiquer la catastrophe éditoriale aussi en termes de vente. Et souvent, c'est les livres que j'aime le plus. C'est l'enfant un peu tordu. C'est, tu vois, mais c'est toi mon préféré. Et voilà.
Lorsque vous êtes devenu réalisateur, vous avez à nouveau reçu un accueil enthousiaste de la part du public, puisque Gainsbourg vient.
Par exemple, de tous les romans que j'ai faits, mon préféré, c'est Le plus grand philosophe de France, qui s'est vendu à 1,5 exemplaire, c'est moi qui l'ai acheté. Je pense que c'est de très loin le meilleur et le plus provocant. Il raconte l'histoire d'un philosophe au XVIIIe siècle qui est très gauche bien pensante. Il veut écrire contre l'esclavage, mais il ne veut pas vendre ses esclaves parce qu'il a besoin d'argent pour écrire. J'en ai vendu deux. Mais je l'aime plus que tous mes autres livres. Pardon.
Il est très bon. Je l'ai lu.
Qui l'avez lu.
Oui, je fais partie des deux. Je disais que lorsque vous êtes devenu réalisateur, vous avez à nouveau reçu un accueil enthousiaste de la part du public. Gainsbourg, Vie héroïque, c'était aussi beaucoup, beaucoup de spectateurs en salle, puisqu'ils étaient 1 million. Et aussi de la part de vos pairs, vous avez reçu des Césars, plusieurs Césars, dont celui de meilleur premier film pour ce film-là. Est-ce que ça compte pour vous, les récompenses? Vous avez aussi eu des récompenses en tant que dessinateur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ou ça vous est complètement indifférent, Joanne Sfar?
Non, c'est pas vrai. Je suis une grosse orientale. C'est du miel dans ma gorge. Ça me fait énormément plaisir. Si vous voulez m'amadouer, commencez par me faire des compliments et tout va bien se passer. Le seul problème, c'est que j'y crois pas. C'est que j'adore ça. Quand il y a un prix, il faut absolument qu'on me le donne, sinon je vais pleurer. Mais ça suffit pas à me rassurer. Non, ce qui me rassure, ce sont les fois où un lecteur me dit une chose, je sais pas, qui me touche, ou un auteur, on parlait récemment de la critique, on me disait « mais ça t'ennuie pas quand il y a des critiques méchantes ?» Moi, je suis tout surpris quand quelqu'un comprend, ou quand quelqu'un apprécie, ou quand on a l'impression que c'est passé, parce que soi-même, on ne sait pas ce qu'on veut raconter. C'est tout de même une chose assez rare et assez... Clément Rosset, qui est beaucoup moins gentil que moi, dit « la pire de choses, ce sont le moment où vous avez le sentiment d'être compris ». Mais ça m'émeut vraiment beaucoup.
Et la question de la postérité, elle se pose de quelle manière pour vous? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est une question qui vous occupe?
Non, moi je me tourne beaucoup plus vers le passé. Je suis un grand passéiste. J'arrête pas de me demander si Hugo Pratt aurait aimé, si Moebius aurait aimé. Si, je ne sais pas s'il y aura encore des bandes dessinées dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Mon sacerdoce, c'est le dessin. On a créé l'an dernier, pour les 200 ans de l'École des Beaux-Arts, le premier atelier où on a le droit d'y enseigner des bandes dessinées. C'est moi qui m'en occupe et ça, j'en tire une fierté énorme, parce que quand j'étais étudiant, on m'emmerdait au sujet des bandes dessinées quand j'étais aux Beaux-Arts. En France, on a la chance de faire des bandes dessinées comme nulle part au monde. C'est un langage vraiment particulier et comme petit Français, je suis très, très fier de ça. J'aimerais bien qu'on garde ça. Les pouvoirs publics ont toujours été très, très gentils, mais ils savent pas trop quoi faire de nous, donc c'est un peu compliqué. Je crois que ça mérite d'être défendu, je sais pas, mais ça mérite d'être protégé, ce truc-là.
Et quand vous l'enseignez, la bande dessinée, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre avant tout à vos étudiants et comment ça s'enseigne, la bande dessinée?
Je sais pas, moi j'arrête pas de leur dire je comprends pas, j'ai rien compris, les lettres sont moches. Et non, ou alors je dis toujours c'est très bien, ce qui rime à rien. Mais c'est pas moi, je sers à rien. Ce qui sert, c'est qu'on a rassemblé dans le même endroit plein d'étudiants extrêmement talentueux qui travaillent ensemble. Et c'est ça qui sert. C'est le lieu qui sert. Il y a un des profs des Beaux-Arts qui m'a dit récemment si on nous sortait de cette école, on aurait tous l'air beaucoup moins intelligents. Les murs, c'est un peu comme dans Harry Potter. L'école des Beaux-Arts, si vous avez l'occasion d'y entrer, elle est extrêmement impressionnante. Dès qu'on y est et qu'on dit je pratique les bandes dessinées aux Beaux-Arts, je trouve que c'est délicieusement provocant et j'adore ça.
Merci beaucoup, Joanne Sfar, et merci au public venu en nombre pour écouter ce soir.
Merci.
C'était la masterclass de Joanne Sfar avec Mathilde Wagmann. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Guergaillan.